Bienvenue dans la tracklist. Vous écoutez le deuxième épisode d'une série consacrée au rock new-yorkais. La dernière fois, on a parlé du premier album du Velvet, et aujourd'hui, je vous propose de faire un saut de 10 ans dans le temps, direction 1977, la date où paraît l'album Marky Moon du groupe Television. Alors, 1977, c'est vraiment une très bonne année dans l'histoire du rock, et notamment dans l'histoire du punk. On a un nombre sidérant de classiques qui paraissent cette année-là, on a par exemple Lust for Life d'Iggy Pop, Heroes de David Bowie, c'est aussi l'année où paraissent les premiers albums des Clash et des Sex Pistols, etc. Bon, le temps des hippies est révolu, hein, le mot d'ordre il a changé, c'est plus Peace and Love, mais No Future. Parmi les albums marquants de cette année 1977, il y en a un qu'on oublie souvent de citer, c'est ce fameux album Marky Moon dont je compte vous parler aujourd'hui. Il fait vraiment partie de ces albums mythiques qui ont influencé des générations de musiciens mais qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. Lors du podcast sur le Velvet, on a exploré plutôt la face sombre de New York, le wild side d'une ville dangereuse et camée. Avec Television, on reste dans New York underground, mais ce sera quand même nettement moins glauque, je vous rassure, parce qu'aujourd'hui, je vous propose de faire un tour du côté du Manhattan arty et intello, du côté des bohèmes qui lisent les poètes symbolistes français et qui rêvent de faire fusionner rock, punk et free jazz. Ce Manhattan bohème, c'est celui de Tom Verlaine, donc celui qui fut le leader de Television, donc il était à la fois chanteur et guitariste, mais Tom Verlaine était également l'ancien amant de Patti Smith. Bon, c'est normal si vous en avez jamais entendu parler, parce que c'est un homme assez discret, un homme peu médiatique, qui est d'ailleurs mort en janvier 2023, à 73 ans. Sa mort, elle a eu un fort écho dans la presse musicale, avec beaucoup d'hommages de musiciens, et il y a notamment eu un très beau texte de Patti Smith qui a été publié dans le New Yorker. Tom Verlaine, donc Thomas Miller de son vrai nom, il a rien de très très punk à l'origine. Il est issu de la classe moyenne juive et il grandit dans le New Jersey puis dans le Delaware. Amateur de Coltrane, il s'oriente d'abord vers le jazz, donc il joue du saxo, mais il finit par troquer son cuivre contre une guitare électrique. Alors, il a fait ça pour deux raisons, enfin en tout cas j'ai lu deux versions différentes. La première version, c'est qu'il aurait entendu les Stones et que en fait, ça lui aurait donné envie de se mettre au rock, donc comme plein de jeunes avant lui et après lui. Et la deuxième version, elle est un petit peu moins glamour. En fait, il jouait au hockey et il se serait pris un palais dans les dents, donc ça devenait un petit peu plus compliqué de jouer du saxophone. Au cours de sa jeunesse, Tom, il est envoyé dans un internat privé où il fait une rencontre qui va le changer à jamais. Il se lie d'amitié avec un certain Richard Mayhews, qui est plus connu sous le nom de Richard L. Hein. Richard L deviendra une figure emblématique du punk américain au cours des 70s. Tom et Richard, ce sont deux jeunes bourgeois en rupture avec leur milieu conformiste, deux têtes brûlées qui font les 400 coups ensemble. Donc par exemple, à 16 ans, ils décident de fuguer, donc ils quittent leur internat dans le Delaware en espérant rejoindre la Floride, mais ils se font arrêter en Alabama parce qu'ils ont foutu le feu à un champ de coton. Bon, leur amitié, elle repose pas que sur la déconne, hein, loin de là. Tom et Richard, ils partagent une même passion pour la poésie, et notamment pour la poésie symboliste française. Ils écrivent des poèmes qui se lisent et ils se partagent des recueils de poésie. C'est d'ailleurs donc de cet intérêt pour la poésie qui tire leur nom de scène respectif. Tom Verlaine, c'est en référence au poète français Paul Verlaine, et Richard L, donc L pour Enfer, c'est en hommage au recueil Une saison en enfer de Rimbaud.
Bims. Elle voulut aller sur les flots de la mer. Et comme en vent bénin soufflait une embellie, nous nous prêtâmes tous à sa belle folie. Et nous voilà marchant par le chemin amer. Le soleil luisait haut dans le ciel, calme et lisse. Et dans ses cheveux blonds s'étaient des rayons d'or, si bien que nous suivions son pas plus calme encore que le déroulement des vagues, ô délice. Des oiseaux blancs volaient alentour mollement, et des voiles au loin s'inclinaient toutes blanches. Parfois de grands varechs filaient en longues branches, nos pieds glissaient dans pur et large mouvement. Elle se retourna, doucement inquiète, de nous croire pas pleinement rassurés, mais nous voyant joyeux d'être ses préférés, elle reprit sa route et portait haut la tête.
Bon, même si Tom Verlaine, il a avoué par la suite qu'il n'était pas si fan que ça de Paul Verlaine et qu'en fait il avait surtout choisi ce nom parce qu'il trouvait que ça sonnait bien, je ne pouvais pas résister à la tentation de vous faire écouter ce poème de Verlaine. Ce poème, c'est Beams, le dernier poème du recueil Romance sans parole dans la section Aquarelle. Bon, cet intérêt pour la poésie, il se ressent vraiment dans les paroles de Television, puisque ces paroles, elles sont souvent énigmatiques, elliptiques, à double sens. C'est notamment le cas dans le morceau Venus, le deuxième morceau de l'album Marky Moon. C'est un morceau qui dépeint une virée nocturne et surréaliste dans les rues de New York, et en fait, le narrateur est en proie à une forme d'ivresse, mais on sait pas vraiment s'il est ivre sous l'effet de l'amour, ou si en fait il agit ainsi à cause des drogues qu'il a prises. C'est un texte assez déroutant, avec des images impressionnistes et irréelles. Verlaine y dit par exemple qu'il est tombé dans les bras de la Vénus de Milo, et bon, si vous voyez à quoi ressemble la Vénus de Milo, vous comprenez que l'image est un petit peu paradoxale.
Thank you.
Suite à la fugue, Richard parvient à convaincre sa mère que l'école, c'est pas vraiment fait pour lui, et donc il obtient l'autorisation d'arrêter l'école. Il travaille chez un libraire porno pour se faire un petit peu d'argent, puis il décide d'aller tenter sa chance dans la grande ville, à New York, où il atterrit donc en 68, à 19 ans à peine. Tom le rejoint peu de temps après, les deux hommes commencent à mener une vie de bohème ensemble, ils survivent en vendant des livres volés et en publiant des poèmes dans des magazines ou encore dans des recueils. Ils sont un petit peu comme Verlaine et Rimbaud finalement, la passion en moins. Bon voilà, les deux hommes décident de monter un groupe, hein, c'est ce qu'on fait à l'époque quand on est jeune et qu'on est à New York, et donc leur groupe s'appelle d'abord The Neon Boys. Tom il s'achète une Fender Jazz Master et il achète une vieille basse à $50 à Richard. Bon, pour la petite précision, Richard il est pas du tout musicien, donc Tom il décide de lui apprendre les rudiments de la basse. À l'époque, la scène rock new-yorkaise est en pleine ébullition. Les groupes de punk, ils apparaissent aux quatre coins de Manhattan. Il y a des groupes qui sont pour certains iconiques et que vous connaissez peut-être, comme les New York Dolls ou encore les Ramones. Bon, ces groupes, ils pratiquent un rock agressif et minimaliste, un gros riff de guitare, des paroles nihilistes et provocantes, un rythme ultra rapide, pas le temps pour faire un solo, et le tout est plié en 3 minutes top chrono. C'est aussi rapide et efficace qu'une guerre éclair. Fin 73, les Neon Boys engagent un nouveau guitariste, Richard Lloyd, et il se renomme Television. Alors, ils choisissent ce nom pour deux raisons. La première raison, c'est que Verlaine déteste la télé et il dit que la musique de son groupe va apporter une solution alternative à la télévision. Et d'ailleurs, lors des premiers concerts du groupe, on empile des postes de télé en noir et blanc. Voilà, il y a cette espèce de scénographie assez intéressante. Et il y a également un jeu de mots sur Television, donc Television, donc dire ou raconter une vision. Et donc ça colle bien avec les paroles un petit peu surréalistes, impressionnistes du groupe. À l'époque, le centre névralgique de la scène punk new-yorkaise, là où ça se passe, c'est un club qui s'appelle le CBGB. Bon, CBGB, ça sonne un petit peu BCBG à nos oreilles françaises, mais ça n'a absolument rien à voir. Hein. Bon, les punks qui s'y produisent, ils sont pas trop du genre à chanter « Jésus revient » dans une église à Auteuil. Ce club, il a été ouvert en décembre 73 dans un quartier plutôt mal famé de New York et Television a beaucoup contribué à la renommée de l'établissement. Bon, à ses débuts, le club marche pas très bien. Tom Verlaine, il rencontre Hilly Crystal, donc le patron du CBGB, et il lui propose de jouer dans son club. Alors pour le convaincre, Tom, il lui dit qu'il a beaucoup d'amis alcooliques et que donc ils vont beaucoup consommer au bar du club. Bon, le patron, il est plutôt sceptique, hein. D'ailleurs, il a jamais vraiment apprécié Television, mais il finit par accepter, et il donne à Television les shows du dimanche soir, soit la pire soirée de la semaine pour faire des concerts. Television se fait très vite un nom dans le milieu underground new-yorkais, et il permet vraiment de lancer le CBGB, qui se met à accueillir d'autres groupes punk et d'autres groupes de la scène New Wave, donc des groupes qui vont marquer l'histoire, on peut penser par exemple aux Talking Heads ou encore à Blondie. Television impressionne. Hein. Bowie les voit en 1974 et il dit que c'est le groupe le plus original qu'il ait vu à New York. Et voilà, hein, Television commence à compter ses fans, il compte ses adeptes, comme par exemple le réalisateur Jim Jarmusch, qui dit qu'il a vu le groupe plus de 20 fois en concert.
I saw Television maybe 20 times, I think. And I saw them, I think, in some of their very first shows. So I was really inspired by that whole scene very early on. There's something very French in a way for me about Television. I don't know why, but aesthetically they were very different, and their music could have extended instrumental passages that would just lift you away and transport you somewhere.
C'est aussi à cette époque que les relations se détériorent entre Tom et Richard Hell. Les deux hommes ont de plus en plus de mal à s'encadrer, hein. Là on est quand même plus proche d'une saison en enfer que des illuminations. Le groupe se professionnalise hein, avec des musiciens rigoureux, sauf que Richard n'a pas fait de progrès en basse et on peut pas vraiment dire qu'il excelle. Hein. Lui son truc c'est quand même plutôt la poésie. Et puis il y a une guerre d'ego entre les deux hommes. Richard en fait des tonnes sur scène, c'est un peu un espèce d'Iggy Pop, hein. Il est erratique, il est exubérant, et Tom il a un peu l'impression de se faire piquer la vedette. Mais bon, au-delà de ça, au-delà de ces différences de caractère, les deux hommes ont des divergences esthétiques. Richard, il est plutôt fidèle à l'esprit punk des débuts, il veut faire une musique minimaliste et agressive, tandis que Tom, il est déjà dans ce qu'on a appelé plus tard le post-punk, c'est-à-dire qu'il est déjà dans une musique un petit peu plus maîtrisée, plus élaborée. Richard quitte Television en 75, il intègre un groupe qui s'appelle les Heartbreakers, mais il quitte très vite le groupe parce qu'il s'entend pas avec le leader Johnny Fenders. Du coup, il monte un nouveau groupe, donc The Voidoids, et c'est avec ce groupe qu'il signe un album et un morceau culte pour tout le mouvement punk, Blank Generation, soit la génération du vide. Donc, sur la pochette, on peut voir Elle avec les cheveux en bataille, et il porte une chemise rapiécée, donc ça annonce tout de suite la couleur. Comme je vous le disais au début de l'émission, il y a une autre personne qui a énormément compté pour Tom Verlaine, c'est la chanteuse Patti Smith. Donc avec elle, il a notamment eu une brève liaison. Lors de la mort de Verlaine, donc l'année dernière, Smith elle a écrit un texte qui a été publié dans le New Yorker, « He was Tom Verlaine ». C'est un texte assez émouvant dans lequel Patti Smith revient sur son histoire avec Tom Verlaine. Patti Smith rencontre Verlaine pour la première fois en 73 à New York, puis elle le voit une deuxième fois à l'occasion d'un concert de télévision au CBGB. Ce concert marque profondément Patti Smith.
Ce que nous avons vu cette nuit-là m'a été familier. C'était notre futur, l'alliage parfait entre poésie et rock'n'roll. Je regardais Tom jouer et je me suis dit que si j'avais été un homme, j'aurais été lui.
À partir de là, Patti devient fan de télévision et elle assiste à leur concert tous les soirs. Une histoire d'amour qui se noue entre elle et Tom, qui font de longues virées nocturnes dans les rues de New York en parlant musique et littérature. D'ailleurs, ils partagent la même passion pour la poésie. Il y a beaucoup de points communs hein, entre Patti Smith et télévision. Dans les deux cas, on est dans l'élaboration d'une musique rock qui mêle à l'énergie punk toute une imagerie poétique faite de visions et de rêves. Avant même la parution de Marquee Moon en 77, Patti Smith, elle opère la mue du rock new-yorkais avec son album Horses qui est publié en 75 et qui vaut vraiment le détour.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. Money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need. Babe, I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold in fields of snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we dream it, when we dream it, when we dream it.
Avec le départ de Richard L., ça devient un petit peu plus sérieux pour Television. Richard, il est remplacé par Fred Smith, qui a été bassiste pour Blondie. En 75, le groupe enregistre son premier morceau en studio, hein, le single Little Johnny Jewel, donc c'est un morceau qui connaît un certain succès dans le milieu underground new-yorkais. Et puis voilà, les choses s'accélèrent, hein. Le groupe signe un contrat avec Elektra, donc, qui est une prestigieuse maison de disques, et donc il rentre en studio pour enregistrer Marquee Moon. Et donc d'ailleurs, il y a une particularité de cet album, c'est qu'il est joué en live en studio, il est joué en direct. Andy Jones, donc l'ingé son, il enregistre le groupe sans même le prévenir que ça tourne. Bon, faut dire aussi que le groupe est particulièrement au point, hein. Il y a une énorme synergie entre les musiciens, Puis il faut dire que ça fait un petit moment qu'ils jouent et qu'ils connaissent vraiment leurs morceaux sur le bout des ongles. L'idée, c'est vraiment de capter l'énergie du live comme dans le jazz. D'ailleurs, Richard Lloyd, il s'inspire de la musique jazz et de la manière dont on enregistre des albums dans le jazz.
Les albums de jazz étaient enregistrés dans la journée. Si tu passes plus d'un an sur un album, le plus souvent le résultat ressemblera à des pâtes trop cuites. Il m'a pris du temps pour faire ce disque, mais avant d'entrer en studio.
Marquee Moon, donc le morceau phare de l'album, il a été enregistré en live en une seule prise. Bon, Marquee Moon c'est quelque chose, hein. C'est 10 minutes, dont 4 minutes chantées, avec les paroles énigmatiques et poétiques dont Tom Verlaine a le secret, et 6 minutes de solo de guitare. Jusqu'au bout, Billy Ficca, le batteur du groupe, reste persuadé que Marquee Moon n'est qu'une simple répétition.
Lightning struck itself. I was living.
Bon, je laisse pas le morceau en entier parce que ça part sur une longue jam, mais ça vous donne déjà une idée et ça vous montre quand même à quel point Television est éloigné et différent de la scène punk new-yorkaise. Voilà, à une époque où tout le monde ne jure que par la rapidité et le minimalisme, Television mise sur la longueur. Et ce qui démarque vraiment Television de la scène punk, c'est l'importance de la guitare et des solos. Le mouvement punk, il avait décapité hein, le solo, c'était trop long, trop chiant, et Television lui redonne droit de cité. Cela dit, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Par exemple, le critique musical Lester Bangs, il dit que Television sonne moins comme les héritiers du Velvet que comme les héritiers de groupes psyché de la côte ouest, donc comme le Grateful Dead, avec, je cite, leur long solo chiant. Bon, la force de l'album Marky Moon, c'est ce duel de guitare, donc la guitare cristalline de Tom Verlaine et la guitare plus rugueuse de Richard Lloyd. Les deux guitares dialoguent, s'entrelacent, s'entremêlent, on est à la fois dans la tension et dans l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui dit de cette friction, pour reprendre le titre d'un des morceaux de l'album. Bon, Marky Moon, c'est vraiment l'album parfait pour vérifier que votre chaîne stéréo fonctionne. Si vous n'entendez qu'une seule guitare, c'est que votre chaîne déconne et qu'il faut sûrement la faire réparer. Il y a une autre chose qui frappe avec cet album, c'est la clarté du son. Marky Moon, c'est un album extrêmement propre, extrêmement épuré, et là encore, c'est une différence majeure avec le punk, donc, puisque le punk est plus proche du rock garage, hein, avec un son sale, délibérément brouillon. Et c'est peut-être cette clarté qui explique que Marky Moon est aussi bien vieilli. Et puis il y a cette raideur de Television. Le groupe pratique un rock froid, décharné, c'est assez troublant. Et d'ailleurs, ce rock froid, il peut aussi faire penser à celui de Joy Division à la même époque. Bon, faut dire que le groupe annonce d'emblée la couleur avec la pochette. Hein, sur cette pochette, on voit les membres du groupe, et au premier plan, il y a Tom Verlaine, avec ce visage émacié, ce visage taillé à la serpe. Tom Verlaine qui vous fixe étrangement. Bon, là, on n'est plus dans la génération du vide, cher à Richard Hell, mais carrément dans la génération livide, du côté des bohèmes qui ne dorment jamais, qui enchaînent les nuits blanches et les cafés noirs. Le rock de Television, c'est un rock raide, vertical, comme les buildings de Manhattan. Un rock raide à l'image de New York, qui rappelle d'ailleurs l'arrivée à New York dans Le Voyage au bout de la nuit.
Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes. Au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas. Non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur.
We'll be right back. À sa sortie, Marquis Moon est ignoré par les médias américains, à l'exception du milieu underground new-yorkais. En revanche, l'album y connaît plus de succès en Europe, où le groupe tourne en première partie de Blondie. Et donc l'album, il se retrouve notamment dans les charts anglais avec les singles Marquis Moon et Prove It. Bon, malgré tout, c'est pas un album qui a eu un succès commercial énorme, hein, comme on peut s'en douter. Ça s'est pas vendu comme les albums de Fleetwood Mac ou encore comme les albums de Michael Jackson à la même période. Ça reste quand même un album relativement méconnu du grand public, alors qu'il a quand même eu une influence folle sur l'histoire du rock, et surtout sur des générations de guitaristes, hein, avec cette fameuse attaque stéréophonique de guitare, hein, qui va influencer beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit parfois que c'est un album pour musiciens, c'est-à-dire un album qui est écouté seulement par les musiciens. En 78, Television sort un deuxième album, l'album Adventure, donc un album qui porte mal son nom. Voilà, on a souvent dit qu'il n'avait d'aventureux que le titre. Et bon voilà, c'est vrai que c'est un album assez décevant, la magie de la friction n'opère plus, et on a des solos de guitare qui s'enlisent. Puis voilà, les tensions sont de plus en plus fortes au sein du groupe, hein, notamment les tensions entre Verlaine et Lloyd, et la friction se transforme en implosion. Le groupe se sépare en 79, et Tom et Verlaine entament une carrière solo chacun de leur côté. Le groupe se reforme au début des années 90, en 92 pour être précis. Ils retrouvent l'alchimie des débuts, mais c'est encore un ratage commercial, le rendez-vous avec le grand public est encore manqué. Bon, ça tient peut-être à la musique de Television, hein, qui, il faut le dire, est assez arty et assez déstabilisante, mais ça tient également à la personnalité de Tom Verlaine, qui n'est quand même pas quelqu'un de très entreprenant. Il a laissé passer beaucoup d'opportunités, hein, des opportunités de concerts ou encore d'événements, et il l'avoue volontiers d'ailleurs, hein, de son propre aveu, il s'est efforcé à ne pas avoir de carrière professionnelle, voilà, pour le citer. Donc voilà, à partir comme ça, c'était pas très étonnant que les morceaux pop de Blondie aient plus de succès. Même si Television n'a jamais eu le succès qu'il méritait, le groupe il occupe quand même une place centrale dans l'histoire du rock. Marky Moon, ça restera quand même comme l'album qui a su mettre l'énergie punk au service d'autres choses, donc au service d'une musique plus élaborée, à la frontière entre le rock, le jazz et la poésie. Tom Verlaine, il dit d'ailleurs qu'avec Television, la musique est passée de la couleur au noir et blanc. Et voilà, moi j'ajouterais volontiers qu'avec Television, on est passé de la guerre éclair punk, donc la Blitzkrieg, à la guerre de position. On est dans une musique qui prend son temps. Évidemment, cette musique, elle fait pas que des adeptes. Hein. On peut trouver que c'est du rock prétentieux, un petit peu pédant. Et on peut préférer le sillage punk tracé par Richard Hell, donc une musique plus agressive, plus percutante. Hein. Une musique qui vous frappe en plein sternum et qui vous épargne des longs solos de guitare qui n'en finissent plus. Voilà, en poésie, on peut préférer Rimbaud à Verlaine. Et ben en musique, c'est pareil. On peut préférer Hell à Verlaine. Chacun ses goûts. Pour ma part, je pense que je me range du côté des intellos et des prétentieux, du côté de ceux qui préfèrent regarder la télévision en noir et blanc. C'est la fin de ce deuxième podcast sur un album culte du rock new-yorkais. Voilà, j'espère que cette exploration du New York underground et arty des années 70 vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et on se quitte sur le morceau Prove It, donc qui est l'avant-dernier morceau de Marky Moon. C'est un morceau qui emprunte au polar, puisqu'il est question d'une mystérieuse enquête.
dentin.
C'est bon?
Ouais.
Bims. On dirait que je vais lâcher en rap. Bims. Bims, bims.